Générique.
Bonjour, bonjour à tous. Un nouveau générique s'ouvre avec encore de très très bons films. Bonbon ours, petite balade et grande aventure. C'est un film de Mathieu Gaillard, film d'animation de 35 minutes pour les tout-petits d'environ 3 ans. Il nous a été annoncé lors de la projection de presse. Il fait découvrir Bonbon, petit ourson qui vit dans la forêt avec ses amis et parents qui sont occupés, qui n'ont pas trop de temps pour lui consacrer de jouer avec lui. Bonbon décide de se fabriquer un petit frère. Le souci est que les petits frères ne poussent pas sous les cailloux. Il décide de se mettre en route et en quête de ce dernier. Dans la forêt, il doit bien y en avoir un. Il rencontre son copain, le Quinton, et il lui demande s'il veut bien devenir son frère. Quinton ne comprend pas et il accepte, pensant à un jeu. Sa collègue de toujours, Rita, petite raton laveur, lui explique que ce n'est pas possible qu'un ours soit frère avec un Quinton. Bonbon ne comprend plus rien. Il pensait qu'il suffisait d'être dans la nature et de prendre un copain et du jour au lendemain le dénommer son frère ou sa sœur. À la veillée, Bonbon et ses parents regardent la constellation des étoiles en se disant « Là, c'est la grande ours. Ici, la petite. Là, la moyenne. » D'un coup, Bonbon s'aperçoit qu'il n'y a pas de constellation pour les ratons laveurs. Rita est triste. Bonbon et sa mère attrapent des lucioles et forment une constellation raton laveur pour que Rita soit, comme eux, le nez en l'air dans les étoiles. Mathieu Gaillard réalise un film simple pour les plus petits, mais aussi intéressant avec un brin de culture et de curiosité à se poser des questions. Il sera sur tous les très bons écrans à compter d'aujourd'hui.
Générique.
La passagère d'Andrzej Muchs, d'après l'œuvre de Witold Lencewicz, 1h05 sa durée, ce film a obtenu le prix spécial à Cannes en 1964. Il est sorti le mercredi 28 octobre 1964. Il ressort aujourd'hui même sur tous les très bons écrans. La passagère est un film inachevé par son réalisateur qui s'est tué en voiture avant la fin de celui-ci. Le film est coupé en deux dans le sens qu'il est raconté par Lisa, une dame qui se trouve sur un paquebot avec son mari, au début en croisière, où tout pourrait aller pour le mieux, ou au moment d'une escale aperçoit une dame, Martha, qui, à ses yeux, était la dernière personne à rencontrer ou à apercevoir. Lisa est totalement bouleversée, son mari s'en inquiète et elle lui raconte doucement la situation ainsi qu'à nous-mêmes. Les scènes passées étaient en photo fixe, comme un passé arrêté ou totalement immobile. Nous rentrons dans le vif du sujet avec l'image scope qui nous emporte dans le camp d'Auschwitz où hommes et femmes, dans la mesure de leur attitude physique, vaquent à des travaux. Lisa est une surveillante de camp de femmes. Elle n'est pas spécialement odieuse avec ses prisonnières. Elle a un faible pour Martha, qui n'est pas totalement comme les autres. Elle est calme, intelligente. Lisa la prend sous son aile pour lui rendre la vie carcérale moins difficile, tout en gardant un tendre regard sur elle. Lisa, à contre-cœur, lui laisse même la possibilité de rencontrer son petit ami, qui lui a un statut aussi privilégié d'intellectuel puisqu'il est dessinateur. Une complicité se forge entre les deux femmes, au point que Lisa envisage d'emmener Martha avec elle en cas de mute dans un autre camp. Puis l'on revient aux images fixes du départ pour clore le film et fixer un destin sans retour. Les deux femmes ne se reverront sûrement jamais. Lisa aura sûrement beaucoup plus de mal avec son époux pour lui expliquer tout ce passé tumultueux. Andrzej Muchs réalise ici un film tragique pour lui, puisqu'il n'en verra pas la fin. Il décédera accidentellement sur la route. Cela n'empêche qu'il propose un sujet de départ des plus intéressants avec cette pseudo-amitié entre une gardienne et sa détenue, soit par amour corporel, soit par compassion. Je ne dirais pas par faiblesse, plutôt par domination. Martha est redevable de clémence de Lisa. Andrzej Muchs donne aussi à Lisa la possibilité, en voix off, d'exprimer ou de se justifier sur son passé, qui maintenant il devient douteux à ses yeux et aussi à ceux de son mari. Andrzej Muchs propose son film en images fixes, du moins au début. Il se termine ainsi par William Lencewicz qui laisse dans l'expectative le spectateur sur la suite à donner aux explications de Lisa à son mari, car explication il y aura. Le film se referme comme il s'est ouvert sur une image fixe qui rendit aussi long qu'un discours sans fin. A noter que Andrzej Muchs est né le 16 octobre 1920 à Cracovie. Il est décédé le 20 septembre 1961 à Lodwicz. Il est réalisateur et scénariste. Il a une filmographie relativement importante dans le sens qu'il a réalisé beaucoup de documentaires. Je ne vais pas tous vous les donner ici, mais il en a quand même fait un bon nombre. Je peux vous les donner sur un simple coup de fil. Je vous les donne très très volontiers. Mais ce film, La Passagère, il ne faut pas le rater. Si vous avez l'occasion de le visionner, passe dans l'endroit où vous êtes, faites le détour ou précipitez-vous dans la salle où il est projeté.
Générique.
La famille Asada de Ryota Nakano, 2h10 sa durée, ce film a obtenu pas mal de prix. Il a obtenu le prix NEPAC au Festival International du Film de Varsovie. En 2021, il a obtenu aussi le prix de la meilleure actrice pour un second rôle pour Aku Kuroki et il sera sur tous les très bons écrans à compter d'aujourd'hui. Ryota Nakano nous présente la famille Asada. Par la disparition du père, toute la famille est à son chevet pour le veiller avant l'inhumation. Le cadet de la famille, photographe de son état, apporte une photo du père en pompier pour la disposer au-dessus du corps de ce dernier. Être pompier était son rêve absolu. Puis, Ryota Nakano nous fait remonter le temps pour nous présenter cette famille légèrement folklorique. Il donne l'impression de ne pas être à sa place, dans la case qu'elle a toujours tenue, sans pouvoir combler les rêves qu'elle s'était fixés. Nasashi, le fils cadet, est le seul qui a réussi à assouvir le sien. Il a toujours voulu être photographe, il l'est. Et ce, par un concours de circonstances plus qu'heureux. Le père, Akira, n'arrête pas de prendre sa famille en photo, et en premier lieu, ses deux fils, dans toutes les positions dans des vêtements folkloriques. Un jour, il décide de mettre en image son fils Nasashi dans une tenue vestimentaire plutôt pittoresque. Nasashi ne supporte plus les situations ambivalentes de son père pour réaliser des photos à tout prix. Nasashi décide de ne plus poser. Son père exagère, il va trop loin dans ses hobbies de paparazzi. Il s'approche de lui, son père lui offre son appareil. Il lui dit qu'à compter d'aujourd'hui, c'est lui qui fera les photos. Une vocation est née, Nasashi sera photographe. Le souci est que chaque membre de la famille rêve de devenir quelqu'un ou un personnage important sans jamais l'avouer. Un jour, le père Akira révèle à son fils Nasashi qu'il a toujours rêvé de devenir un pompier. Que cela ne tienne, Nasashi organise une séance avec un collègue pompier. Sans sortir de la caserne, une fausse intervention avec la mère, le frère et bien sûr le père en chef pompier. Nasashi immortalise le tout sur pellicule. Ainsi de suite, toute la famille assouvit ses fantasmes, la mère en infirmière, la famille en sortie de boîte bien arrosée, en groupe de rock, en pêcheur, etc. Toutes ces photos, Nasashi se dit qu'il peut peut-être en faire quelque chose. Il les classe et les propose à un galériste qui lui rigole au nez en protestant que ce sont des photos de famille. Jusqu'au jour, avec une copine, il loue un espace et les expose. Là, une dame totalement déjantée se gondole devant et lui dit de venir dans son bureau quand il aura 5 minutes. Elle laisse une carte. Il s'avère que cette dame n'est autre qu'une des plus grandes galeristes du secteur. En 2 temps, 3 mouvements, sa carrière est lancée. Le tsunami viendra lui ouvrir encore un peu plus les yeux sur la force des photos et nous reviendrons à la case départ, la mort du père ou encore une grosse surprise nous attend. Ryota Nakano nous fait découvrir l'histoire de cette famille totalement baroque qui apporte par ce biais toute la force qu'il faudrait pour approcher de tels sujets. La mort, le tsunami, le désastre qui va avec, les photos qui sont éternelles, révélateurs de souvenirs, de situations cocasses, de mise en scène pour le présent. Toutes ces choses que propose Ryota Nakano ne sont jamais innocentes. Il approche toujours des faits importants qui auraient pu changer la vie de chacun. Ces petites touches, loin d'être anodines, apporte toute la cocasserie du film et son originalité, ce qui en font au départ un film banal, un film très important sur des sujets contemporains, touche le Japon et l'actualité récente avec ce brin de fantaisie qui nous fait garder le sourire malgré le sujet hautement sérieux, surtout à ne pas rater. Il faut noter que Ryota Nakano est né le 27 juillet 1973 à Kyoto. Il est réalisateur et scénariste. Il a une toute petite filmographie puisqu'il a fait en 2000 Axe Go Chilling, en 2006 Rocker Pink, un court-métrage, en 2012 Capturer Papa, en 2016 Son amour fait bouillir l'eau du bain, en 2019 Un long au revoir et en 2020 Les Asada, le film qui nous intéresse aujourd'hui et qu'il faut absolument découvrir. C'est vraiment un très bon film, pas innocent du tout, mais très intéressant.
Générique.
Divertimento est un film de Marie Castille Mansion-Char, 1h50 sa durée. Marie Castille Mansion-Char l'annonce dès le début au générique. Nous partons sur une histoire réelle. Une jeune femme d'origine maghrébine de Seine-Saint-Denis veut devenir chef d'orchestre. C'est son parcours qu'elle nous propose de suivre dans son film. Zaya Ziouani, tout juste 17 ans, et sa sœur jumelle, Fetouma, virtuose également de violoncelle, sont toutes deux plongés dans la musique classique depuis leur plus jeune enfance, au travers de leurs parents adeptes du genre. Elles suivent des cours de musique classique de leur lycée, souvent rabrouées par les autres élèves qui viennent tous de quartiers huppés de la capitale, avec des parents liés de près ou de loin à la musique classique. Quand les deux sœurs exposent leur chorus musical, la prof est esbroufée par la qualité de promotion recueillie par les deux sœurs. Elle leur voue un réel intérêt. Zaya annonce d'entrée qu'elle veut devenir chef d'orchestre. Celui qui prétend l'être dans le lycée ne le voit pas du même œil. Une fille veut rivaliser avec lui. Un jour, le lycée est convié à assister à une représentation du maestro Sergi Celibidac, chef d'orchestre devant l'éternel et maître de conférence. Il s'assoit dans un fauteuil et explique la définition de diriger un ensemble. Il demande à celui qui est présenté comme le chef suprême du lycée de venir montrer son savoir-faire. À peine a-t-il pris la baguette que Sergi lui dit de retourner s'asseoir, qu'il n'est pas digne de diriger. Le tour de Zaya arrive. Elle monte sur scène. Sergi est intrigué qu'une femme vienne diriger. Elle le fait de façon remarquable, au point que Sergi lui demande de venir le voir avant de partir. Une connivence va voir le jour entre eux, car le maestro voit en elle une différence qu'il n'avait jamais perçue chez aucun élève à ce jour. Un second souffle va voir le jour, même les élèves réticents du prime abord ne la regardent du même œil. Les circonspects le resteront. Elle convie un jeune homme qui est dans l'ombre de son père, lui-même chef, et ne pas pouvoir s'exprimer comme il voudrait, avant de lui livrer un lourd secret, comme quoi son père est en prison pour violence sur sa mère. Et du même coup, il ne lui parle plus. Zaya lui redonne confiance au travers de la musique et organise un mini-concert dans la prison où il est détenu. Elle crée avec sa sœur Divertimento, qui sera un orchestre où tout le monde pourra venir s'exprimer du moment qu'il sent la musique et qu'il passe le périph. Sergi devient de plus en plus exigeant avec Zaya pour qu'elle atteigne la perfection, le summum, qu'elle fasse corps avec les personnes qu'elle a en face d'elle, qui sont les musiciens. Dans un moment de déprime, à deux doigts de tout laisser tomber, un événement se produit sous ses fenêtres. Comme à son habitude, Marie Castille Mansion-Char réalise un film somptueux, de sincérité et de magie. Elle mêle la fiction et la réalité, tirée d'une histoire vraie, puisque c'est inspiré du parcours de Zaya Zionani et de sa sœur jumelle, violoniste Fethouma Zionani, qui a voulu démocratiser la musique classique au travers de l'apprentissage d'un instrument ou de l'école de cette dite musique. Marie Castille Mansion-Char, sûrement après ce long dialogue et de concentration avec Zaya, ont pu mettre debout ce projet qui, avec le recul, n'a pas beaucoup de défauts. Zaya a réellement joué dans les prisons. Elle a aussi fait jouer des jeunes qui ne connaissaient pas du tout la musique, en leur expliquant que dans la musique, il n'y avait pas que le rap. En même temps, elle reste consciente que si elle n'avait pas, avec sa sœur, monté son propre orchestre, elle serait encore sur la plage. Divertimento vit grâce à elle, et elle vit grâce à Divertimento. C'est au travers de toutes ces choses qu'il faut se précipiter sur ce film. Dès aujourd'hui, vous passerez vraiment à côté d'un très très grand film en ne visionnant pas. A noter que Marie Castille Mansion-Char est née le 26 janvier 1963 à Paris. Elle est réalisatrice et scénariste. Elle n'a pas une filmographie gigantesque puisqu'en 2012 elle fait Ma première fois, en 2012 toujours Bowling, en 2014 Les héritiers, en 2016 Le ciel attendra, en 2018 La fête des mères, en 2020 Goodman, en 2021 H24, c'est un film pour la télévision, et en 2022 Divertimento, le film qui nous intéresse aujourd'hui et qu'il faut absolument, absolument et vraiment absolument visionner. Ce générique se clôt, on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec encore de très bons films.
Générique.